aujourd'hui, vous levez. On va lire Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 17. Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, j'ai intitulé tout simplement aujourd'hui le sermon « Lettre à l'Église de Pergame ». C'est comme si le titre de la lettre que le Seigneur veut envoyer à l'Église de Pergame, je l'ai intitulé « Le laxisme entraîne des jugements ». Qu'est-ce que c'est du laxisme? Du laxisme, c'est de ne pas exercer de discipline alors qu'il en a besoin. Dans une assemblée, c'est quelque chose qui n'est pas très populaire sur la discipline. C'est difficile à faire pour le pasteur. C'est difficile pour la personne qui reçoit aussi la discipline. C'est difficile pour l'ensemble de l'assemblée parce que c'est quelque chose qui, normalement, est douloureux. Et souvent, on a tendance à exclure des assemblées la discipline alors que c'est extrêmement important parce qu'on voit à l'intérieur de ça qui dit... Il parle de Balaam et il parle aussi des Nicolaïtes. Et à quelque part, c'est des références, on va le voir un peu plus tard dans le développement, là, c'est des références à ce qu'il est en train de leur reprocher qu'ils ne faisaient pas la discipline dans leur assemblée alors qu'ils auraient dû le faire et ils voulaient leur montrer que le laxisme, ou le manque de discipline, ça a des conséquences. Ça entraîne des jugements de Dieu lui-même. Très intéressant. Moi, j'aime bien resituer un petit peu, à chaque fois qu'on reparle d'une église, parce qu'on a fait Éphèse, on a fait Smyrne, et là, on est en train de faire Pergame, mais c'est de replacer dans le contexte pourquoi le Seigneur, il s'était, dans le chapitre 1, il s'était révélé sous différents aspects de sa personne, pour qu'on se rende compte, parce que ces gens-là étaient dans la souffrance, étaient dans la peur, dans la terreur de se faire zigouiller, aller en prison, perdre leur emploi, et plein d'autres choses du style. Alors, ces gens-là étaient dans la peur, dans la terreur, et le Seigneur Jésus, dans sa bonté, dans sa miséricorde, vient vers son peuple et lui rappelle certaines choses concernant sa personne. C'est pas que ces gens-là étaient complètement ignorants qui était Jésus-Christ. Ils savaient des choses sur Jésus. Mais là, Jésus est rendu au ciel et il intercède et il surveille ce qui se passe parce que la royauté de ce qui se passe dans l'univers lui a été confiée par le Père et il veut leur rappeler certaines fonctions qui lui ont été confiées. Et on se souvient que qu'est-ce qu'il a voulu leur montrer, si on revisera pas tout le chapitre 1, là, mais en gros, si on le résume, il voulait leur rappeler sa toute-puissance. Si tu es en train de vivre quelque chose, qu'on t'arrête puis qu'on t'emmène dans la prison, ou qu'on veut te faire une torche de toi, t'accrocher pour un poteau, puis te mettre de l'huile après, puis te faire brûler comme une torche, bien sûr qu'on est terrorisé dans ces temps-là. On a besoin de se faire rappeler que si Jésus intervient pas, c'est pas parce qu'il n'a pas la puissance de le faire. Il a la puissance de le faire, et s'il permet que quelqu'un meure, martyr, c'est qu'il a ses raisons. Donc, sa toute-puissance, son omniscience aussi. Parce que si vous regardez, souvent, il va dire « je sais, je sais, Je sais où tu habites. Je sais qui tu es. Je sais qui tu veux, quoi tu vis. Il sait tout. Alors, des fois, nous, on se dit, ouais, mais sais-tu ce qui se passe à Bécancic? Ben oui. Sais-tu ce qui se passe à Québec? Ou ben oui. Sais-tu ce qui se passe en Afrique? Ben oui. Omniscient. Il a besoin de rappeler à son peuple qu'il est omniscient, qu'il voit absolument tout dans toutes les villes et toutes les bassesses et toutes les misères et toutes les souffrances qui sont infligées à son peuple. Il veut leur rappeler qu'il est omniscient et qu'il est conscient de toutes ces choses-là. Il veut lui rappeler aussi sa souveraineté. Souveraineté, ça veut dire « tu es le roi ». C'est toi qui commandes ce qui va se passer sur la terre à tous les niveaux, dans tous les pays, à tous les instants. Une souveraineté absolue. Il veut leur rappeler cela. Très important, quand tu vis des choses semblables, pour rappeler au monde, à ses élus, à ses croyants de l'époque, que je sais ce qui se passe, puis je juge quand je le juge nécessaire. Très intéressant, la question de la souveraineté. Il veut leur rappeler aussi qu'il gouverne. Non seulement, on va le voir dans le développement du livre de l'Apocalypse, il gouverne l'univers. Et là, il faudrait rentrer un petit peu dans les détails de la grandeur de l'univers si on veut être impressionné par ce qu'il est en train de dire. C'est comme si Jésus leur disait, n'oubliez pas que je suis le gouverneur de l'univers, y compris dans sa grandeur. C'est énorme. Et je suis aussi le gouverneur de tout ce qui se passe sur la terre à tous les niveaux politiques, de tout ce que les Juifs leur faisaient subir, etc. Il voulait leur rappeler aussi qu'il était le prêtre, un prêtre ou un sacrificateur. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a accompli en partie son œuvre en subissant sur la croix le châtiment qui aurait dû être le nôtre. Mais n'oublions pas que le travail d'un sacrificateur, c'est aussi après que Jésus est rendu au ciel. Il prie continuellement pour chacun de nous par son nom. Si on s'imaginait vraiment là, on prendrait conscience de qui Jésus est dans sa grandeur infinie et qu'au ciel, avec le Père, il mentionne notre nom. Comme là, il doit dire des fois au Père, il prie pour Marcel, pour moi. Il prie pour vous autres, chacun individuellement, pour vos besoins. Il connaît vos circonstances à la perfection. Alors, il veut rappeler qu'il est continuellement, comme prêtre, comme sacrificateur, en train d'intercéder pour vous. Ensuite, comme prophète, bien entendu, on sait que le Seigneur Jésus... il était annoncé dans l'Ancien Testament comme étant le prophète. Dans Hébreu, ça dit, anciennement, je parlais par les prophètes. Dit, à la fin, je parle en mon Fils, en Jésus. Donc, la prophétie à son plus haut niveau et à sa plus grande perfection. Il veut leur rappeler aussi qu'il est le juge. Quand on vit des situations semblables, si jamais il nous arrivait de vivre des situations semblables, le fait de savoir que c'est Jésus qui juge, et il y en a qui ont fait souffrir les chrétiens à l'époque, mais quand on étudie un petit peu la moindrement l'histoire de l'Église, ceux qui ont été méchants envers les enfants de Dieu, souvent le Seigneur les a jugés avec une grande sévérité. Quand on regarde un petit peu les choses qui se sont passées. Alors les buts de révéler les différents aspects de sa personne-là étaient, on l'avait vu dans les leçons précédentes, il y avait quatre raisons pour lesquelles le Seigneur faisait ça avec son peuple. C'était d'avertir des dangers, des compromis avec l'idolâtrie. Quelqu'un qui commence dans l'idolâtrie, on va le voir, le Balaam, ça l'a à voir avec l'idolâtrie, et les conséquences que ça l'amène, l'idolâtrie, à ce moment-là, il y a un très grand danger. Et c'est ça que les chrétiens faisaient à l'époque. Il y avait, dans la ville de Pergame, pas pour rien que Jésus leur dit que je sais que c'est là qu'est le trône de Satan. C'était tellement développé, on va le voir tout à l'heure en détail, comment c'était développé pour qu'on puisse l'appeler le trône de Satan. C'était, autrement dit, autour d'eux, c'était des formes d'adoration, d'idolâtrie, mais toutes ces choses-là étaient souvent suivies de comment on dirait bien ça? Des grands parties de folerie, de sexe, de boisson. C'est souvent, l'idolâtrie devant des faux dieux amenait aussi le développement de toutes ces orgies-là. C'est le mot que je cherchais tantôt, des orgies. Et il y avait des personnes à l'époque qui disaient aux chrétiens, un idole, c'est rien. Donc, si tu participes, ben c'est pas si grave que ça. Parce que t'as juste dans ta tête à dire que tu reconnais que c'est rien, puis ça va être rien. Alors, il y avait comme des insinuations de folerie qui rentraient dans les églises, et il y avait besoin de se faire rappeler qu'il y a des conséquences à toutes ces choses-là. Donc, il y avait non seulement des compromis avec l'idolâtrie, mais il y avait aussi des appels au culte de l'empereur. Imaginez-vous les empereurs de l'époque, quand on regarde un petit peu leur comportement, c'était des monstres. C'était des monstres. Et le monstre, il dit « Je suis Dieu ». Puis il demandait aux gens d'aller mettre un petit peu d'encens devant la statue. Et il y avait des personnes de la ville, dont de Pergame, que s'ils ne faisaient pas, on l'a vu l'autre semaine, quelqu'un qui avait refusé, qu'est-ce qu'ils ont fait avec, là? Ils l'ont fait brûler vif. Alors, c'est sûr que ces gens-là avaient besoin de... le culte de l'empereur, c'était comme imposé. Si tu avais un métier, tu faisais partie de ce qu'on appelle une guilde, et les guildes avaient chacun un dieu, de toutes sortes de noms, et quand ils faisaient leur party, si tu étais membre, c'était un peu comme aujourd'hui, si tu serais membre d'un syndicat, puis tu ne participerais pas à des cultes d'idolâtrie, suivis des orgies, tu pouvais être exclu. Et être exclu de ton métier, à l'époque, ça voulait dire que tu crèvais de faim, là, parce qu'il n'y avait pas de bénéfice social dans ce temps-là. Fait que si tu étais exclu, tu ne vas plus gagner ton métier, tu ne vas plus gagner ta vie, tu étais complètement... Alors, il y avait le culte à l'empereur et il y avait aussi toute la débauche qui entourait ça. Imaginez-vous, il y a des gens qui viennent vous dire, « Ben non, c'est pas mal, là, tu peux y aller. » Tu as vu ça dire dans ta tête que c'est... Et quand tu es souffrant, puis tu sais que tu peux te faire emprisonner, tu peux te faire brûler n'importe quel temps, tu peux te faire jeter aux bêtes, il y a quelque chose de séduisant là-dedans. C'est ça que le Seigneur est en train de leur dire. La deuxième, pourquoi il voulait leur parler, comme on lit dans Apocalypse 1 et 2, il voulait les préparer et les fortifier devant les persécutions à venir. Si vous remarquez, il dit « Tu auras... » une tribulation, tu vas être en prison, ça va durer 10 jours, mais on sait que le chiffre est probablement symbolique. Alors, le Seigneur ne cache jamais que les chrétiens ils vont souffrir pour une longue période. Il dit les choses. N'oublie pas que ça va durer. Et si tu as besoin de te faire rappeler qui est le Seigneur et pourquoi il fait les choses dans ces circonstances-là. La troisième chose qu'il avait besoin... les chrétiens de l'époque, c'est de se faire encourager. Parce qu'il y avait énormément des épreuves. C'était la prison, la faim, la soif, la décapitation. Des fois, ils décapitaient. Il y a les bêtes sauvages. Il y avait le bannissement aussi. On te prenait d'une ville pour t'envoyer sur une île quelque part. Arrange-toi, débrouille-toi. Après ça, il y avait l'appauvrissement. Il y avait le rejet social. Ça, le rejet social, nous, on connaît ça si peu. Tu sais, quand on devient chrétien, ça peut arriver qu'il y en ait qui nous regarde de travers, qui nous aime plus bien, qui nous aime moins. Mais on ne connaît pas le rejet social comme ces gens-là vivaient à l'époque. C'était un rejet social total. Si tu te faisais exclure d'une guilde ou d'un syndicat, qu'on pourrait dire l'équivalent moderne d'un syndicat, tu te faisais exclure, tu n'avais plus de job, et là, on te traitait comme si c'était le pire paria de la société. Vivre dans des circonstances comme ça, tu n'as plus moyen de gagner ta vie, puis tout le monde t'haït, là. Ça doit être rough un petit peu. Et il y avait aussi l'autre raison pour laquelle il leur rappelait qui il était, c'était pour les consoler. Si on vivait des choses semblables de nos jours, aurais-tu besoin d'être consolé par le Seigneur lui-même? Mettez-en, comme on dit. Hein. Alors, la vie religieuse de Pergame, je rappelle pour ceux qui ont les notes, que j'ai laissé une feuille, la dernière feuille C'est un petit peu plus de détails sur Pergame et sur ce qui se passait à Pergame. Je ne la lirai pas ce matin, mais je veux juste vous rappeler un peu les grandes lignes de ce qui se passait à Pergame. Donc, la vie religieuse, entre guillemets, là, c'était pas la vie religieuse chrétienne, mais la vie religieuse, entre guillemets, était très développée. On trouvait des temples dédiés aux principales divinités grecques, comme Zeus. Zeus, savez-vous comment il l'appelait? Zeus Soter. Soter, en grec, ça veut dire sauveur. Zeus sauveur. Alors, on attribuait à des divinités païennes des titres divins. Il y avait Dionysos, il y avait Bacchus, qui est le dieu pour... Tu te saoulais, puis tu faisais toutes les orgies, puis tu pensais d'honorer un dieu en faisant ça. Tu avais Vénus, tu avais Athéna. On dit qu'il y avait, à l'époque, dans la ville de Pergame, plus d'une vingtaine. Hey, tu es dans une ville où il y en a de l'idolâtrie. Si on pense qu'autour de nous, il y a de l'idolâtrie, il y en a, là. Mais comme ça, pas pour rien que Jésus leur dit, « Là, je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. » Quand tu trônes, ça veut dire que tu es le chef de la place. C'est toi qui est le boss, comme on dit. Donc, il y avait tous ces temples-là, plus d'une vingtaine. Donc, il y avait énormément d'idolâtrie. Pas pour rien qu'ils vont leur ramener l'histoire de Balaam. On va rappeler un petit peu tantôt, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'était l'histoire de Balaam. Il y avait un fameux temple qu'on appelait Asclépios. Asclépios, autrement dit l'Esculape, le dieu de la médecine. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez souvent le symbole de la médecine, c'est comme une perche avec un serpent à tourner autour. Très intéressant de voir qu'il avait développé toute une... les gens allaient se faire soigner à Pergame, on va voir un petit peu plus loin comment ils procédaient. Donc, ça a vraiment le symbole, le dieu de la médecine, avec le serpent enroulé autour d'un bâton, comme symbole. Et on soignait les malades de toutes sortes de façons, par des bains d'eau et de soleil, par la musique, la suggestion, la prière, bien entendu la prière entre guillemets, là, du prix un dieu païen, et l'interprétation des rêves. Trouvez-vous que ça ressemble au 21e siècle? Et que ça y ressemble. Avec toute la médecine nouvel âge, tout ça, ça tourne tout autour des affaires comme ça, semblables. Alors, ils allaient dans un temple et eux, ils élevaient des serpents inoffensifs. Des serpents qui piquent, mais qui peuvent piquer, mais qui ne. C'est pas des piqûres qui tuent. Et ces malades-là étaient couchés la nuit dans le temple qui était consacré à Asclépios. Il y avait des serpents inoffensifs. Puis durant la nuit, on lâchait les serpents. Les gens couchaient là, puis on lâchait un serpent. Puis quand les gens touchaient un serpent, ils étaient convaincus qu'ils étaient guéris. Hey, c'est spécial. Alors, ils se répandaient parmi les malades et leur toucher était interprété comme l'attouchement d'Asclépios en vue de la guérison. Donc, le culte d'Asclépios comprenait certains aspects mystiques. Dans un hymne à Asclépios, il y a un nommé Aélius, Aristide, qui va vous dire ce qu'il a dit. Il dit avoir reçu d'Esculape, Esculape ou Asclépios, la même, avoir reçu d'Esculape dans une incubation, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'incubation, avoir reçu d'Esculape dans une incubation le nom nouveau de Théodoros, qui signifie « don de Dieu ». Voyez-vous, le nom nouveau, quand il parle d'alors, je vais donner un nom nouveau, la situation que le Seigneur amène pour les consoler a toujours un lien avec ce qui se passait à cette époque-là. Une incubation... C'était un rite divinatoire qui consistait à dormir dans un temple ou près d'un temple pour obtenir par un songe les prescriptions d'un dieu guérisseur. Tu dormais dans le temple ou à côté du temple parce que tu disais que le dieu était supposé de venir te donner une interprétation de c'est à quoi ta maladie, puis il venait te dire comment tu guérirais. Alors les malades attendaient que le dieu leur dicte en songe des prescriptions infaillibles. Quand vous regardez l'ensemble des choses qui se passaient à l'époque, un rite divinatoire, des prescriptions qui t'étaient données par un dieu, un nom nouveau, tout cela fait penser à une parodie occulte du christianisme. Autrement dit, les affaires qu'il faisait, c'est des choses qui sont dans la religion chrétienne, mais c'est une parodie, une déformation. Alors, celui qu'on appelle, bien entendu, ces choses-là viennent du singe de Dieu, qu'on appelle Satan. Souvent, on appelle Satan le singe de Dieu. Et la troisième chose qui se passait, donc, il y avait plusieurs choses. Une vingtaine de temples à des dieux païens. Il y avait le fameux temple d'Asclépios, qui était énorme, qui attirait énormément de monde, parce que comme, dans ce temps-là, comme aujourd'hui, il y avait du monde qui était malade. Et il y avait le fameux culte de l'empereur, qui était en train de s'installer. Alors, Pergame était une ville où le culte à César est le plus intense. Si tu prenais les sept villes qui sont mentionnées dans l'Apocalypse, là où le culte à César était le plus fort, c'était à Pergame. Fait que quand tu étais chrétien dans une ville comme ça, la vie devenait un petit peu difficile. Alors, il y avait des très graves dangers qui guettaient les chrétiens à l'époque. Il y avait la séduction de l'idolâtrie, les orgies sexuelles qui étaient associées avec ça, une perversion de la doctrine de la liberté chrétienne. La doctrine de la liberté chrétienne, ça dit qu'on est libre de faire des choses, mais c'était une perversion dans le sens de dire, quand Paul dit que les idoles sont rien, c'est vrai qu'elles sont rien. Mais quand même, faut pas penser qu'à cause que je dis dans ma tête, il n'y a rien là, parce que mon âme n'est pas reliée à ce que je fais, mon corps est... Tu sais, il essayait de faire une dissociation entre le corps et l'âme, et de dire que si tu participais, dans le fond, t'as pas si grave que ça. Alors, c'était une tentation pour les chrétiens de sortir de leur misère et d'assister quand même. Donc, si tu assistais, tu ne partais pas ton droit de pratiquer ton métier, tu n'étais pas appauvri, tu risques à moi la prison. Donc, il y avait comme une tentation là, de compromis qui était extrêmement dangereuse. Puis, ils ne voyaient pas plus qu'il fallait. Là. Alors, c'est pour ça que le Seigneur a besoin d'intervenir pour leur dire. Donc, il y avait une perversion de la doctrine de la liberté chrétienne. Et il y avait aussi les commencements de compromis avec le monde, avec le mal du monde pervers qui les entourait. C'était plein. Leur entourage n'était que perversion, n'était que mal. Et quand on est entouré de mal comme ça, le mal devient... que ça a une influence. Un peu comme quand on vit dans une grande ville. Hein. Plus la ville est pourrie autour de toi, plus c'est difficile de vivre ta vie chrétienne. Alors, l'Église de Pergame, elle souffrait d'un mal grave, qui était le laxisme ou l'absence de discipline. Et ça commençait par les leaders. Le Seigneur s'adresse souvent, quand il dit, écrit à l'ange de Pergame, l'ange, quand on regarde, la plupart des commentateurs vont dire que l'ange, c'est le pasteur. Alors, le Seigneur commence par faire son avertissement au leader. Parce que souvent, si le leader ne fait pas sa job, le reste vont suivre. Alors, si le leader fait sa job, ben le mal va sortir, la discipline va s'exercer, et ça va maintenir la pureté dans l'Église. C'est pour ça que le Seigneur commence toujours par le leadership. Donc, le laxisme, qui comprenait le laxisme, non seulement le laxisme de la part des leaders, mais le laxisme de la part des membres qui erraient. Parce que s'il y en avait dans l'Assemblée qui avait commencé à assister à l'adoration ou au culte de l'empereur, c'est sûr que le Seigneur avait besoin de dire aux leaders, « Fais ta job, puis arrête le mal, parce qu'il va se répandre de plus en plus. » On le sait, les Écritures nous disent, compare ça le mal à du levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Si tu t'en occupes pas, il y a du mal. Disons qu'il y aurait quelqu'un dans l'Assemblée qui dirait, « Jésus n'est pas Dieu. » Puis là, il commençait à aller vous voir. « Regarde, lis ça, je te le dis qu'il n'est pas Dieu. » Puis il commencerait à vouloir faire du trouble comme ça dans l'Assemblée. Mais si le leader, là, il met pas ses culottes, puis il ne met pas des hors, là, mais c'est sûr qu'il va avoir des problèmes. Il y en a qui vont le suivre. Ça a toujours été, dans tout le cours de l'histoire, ça a toujours été la même chose. Alors, le laxisme, c'est vraiment la tendance excessive à la conciliation et à la tolérance. La conciliation puis la tolérance, ça peut être des vertus. Mais l'excès n'est plus une vertu. Parce que si tu tolères les choses juste pour ne pas avoir de troubles, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai constaté dans mon expérience chrétienne, qu'il y a des pasteurs que dans le but qu'il n'y ait pas de troubles dans l'Assemblée, ils voient des choses qui ne sont pas correctes et ils le savent et ils n'interviennent pas dans le but de maintenir l'ordre, dans le but qu'il n'y ait pas de problème dans l'Assemblée. Ben, dis-toi une chose, si tu commences ça, tu vas t'attirer des jugements du Seigneur. Alors, on regarde le premier point, le verset 12 et 13, c'est le laxisme qui est évité. Donc, le Seigneur veut montrer à son peuple qu'il approuve ceux qui résistent. Il va dire à Apocalypse 2, verset 12 et 13, dans la version Sterval, « Écris aussi à l'ange. » Ici, l'ange, j'ai déjà dit, c'est une image pour utiliser pour écrire au leader ou au pasteur de l'église de Pergame. Le titre qu'il utilise de lui-même, il parle de lui-même et le titre qu'il utilise de lui-même pour parler aux circonstances particulières de ces gens-là est toujours en rapport direct avec ce qu'ils vivent. Voici ce qu'il leur dit. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Voyez-vous le fameux « je connais » tout à l'heure, on parlait de l'omniscience. Ouais. « Je connais tes œuvres. » Il sait ce qui se passe dans l'Assemblée. Il savait ce qui se passait dans l'église de Pergame, mais dites-vous une chose, il sait ce qui se passe dans l'église de Nantes, et il sait ce qui se passe dans toute église du monde. « Je connais tes œuvres et le lieu où tu habites. » Imaginez-vous, le Seigneur, non seulement il sait qui t'es, puis à quelle église tu es attaché, il sait même où tu restes. « Je sais le lieu où tu habites. » Le Seigneur nous connaît dans les moindres détails de nos vies personnelles. Il dit, où Satan a son trône? T'habites là où Job reste, puis qui est assis sur son trône, c'est lui qui mène. C'est là que t'habites. Puis le Seigneur, il dit, je le sais. Et après ça, il dit, là, il leur dit, qu'est-ce qu'il approuve chez eux? Tu retiens mon nom. Malgré ces énormes pressions sociales qui viennent de l'extérieur, tu retiens que tu appartiens à Jésus-Christ, que tu t'appelles encore un chrétien, et tu résistes à ne pas aller dans ces assemblées-là, à ne pas dire que l'empereur est Dieu, etc. Il dit, tu retiens mon nom, et tu n'as point renié ma foi. La tentation, dans ce temps-là, quand la pression vient tellement forte, la tentation, c'est d'abandonner. Tu renies. « Ah, bon, OK, de bord, on va en mettre de l'encens. On va dire l'empereur est seigneur et sauveur. » C'était pas difficile de faire ça, hein? Voyant un petit peu l'encens, puis il y avait des témoins, tu étais correct. Le monde t'avait vu faire ça. Alors, il dit, « T'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas... » Là, il parle d'Antipas, on n'a pas beaucoup de détails sur qui était Antipas, mais c'est tout simplement une personne qui est allée jusqu'à donner sa vie. Ne pas faire ça. Parce que là, il dit, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, autrement dit, cette personne-là avait été capable de résister à toute cette pression-là et il l'avait résisté jusqu'à la mort. Autrement dit, il avait dit, jamais tu me feras dire ça de l'empereur, jamais tu me feras participer à ça. C'est non. Puis à l'époque, c'était, il dit, mon fidèle martyr. Il a resté fidèle, même si ça l'a été au coût de sa vie. Il dit, mon fidèle martyr a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. Alors vraiment, l'exclamation du Seigneur, c'est vraiment quelque chose d'approprié. C'est toujours, le Seigneur met toujours ses interventions auprès de son peuple d'une façon appropriée à la circonstance dans lesquels ils vivent, les choses qu'ils vivent. Alors, il fait la même chose aujourd'hui pour nous. Quand on parle de l'épée, il dit « je viendrai avec mon épée ». Bien entendu, on sait, quand on regarde ailleurs dans les Écritures, l'épée fait souvent référence à la parole. Et on sait, la parole, le Seigneur est en train de leur dire « je vais... » Tu sais, quand on dit le titre, alors je vous ai dit, ça disait Le laxisme entraîne des jugements. Il est en train de leur rappeler que si le mouvement de vouloir participer à ces affaires-là n'arrêtait pas, il était pour les juger par sa parole. Mais la parole du Seigneur, c'est pas juste « je vais vous faire des reproches verbales ». Ici, quand il parle de sa parole, c'est que quand le Seigneur parle, ça s'exécute. Comme quand les Corinthiens prenaient le repas du Seigneur de façon indigne, il dit qu'il y en a qui ont été malades, il y en a qui ont été des infirmes, puis il y en a qui sont morts. Alors le Seigneur est en train de leur dire « arrêtez de participer à ces choses-là, sinon je vais venir avec ma parole et je vais amener de la mort ». Même chez les chrétiens, le Seigneur peut amener, si tu désobéis après avoir été averti, il peut t'amener à la mort. Alors, les Saintes Écritures nous apprennent souvent que l'épée, c'est un symbole de l'autorité, ça a été confié par Dieu lui-même au gouvernement de la terre. Mais les hommes, comme le gouvernement à l'époque, avaient commencé déjà à pervertir l'autorité qu'ils avaient reçue de Dieu pour exercer quelque chose dans la société. Donc, ils ont perverti l'usage que le Seigneur a donné. Et quel était l'usage que le Seigneur donnait aux autorités? C'était de punir le mal, de récompenser le bien. Il faisait exactement l'inverse. Le bien, il punissait, il envoyait les gens en prison, il faisait brûler vifs, il les envoyait aux bêtes, il leur faisait perdre leur travail, il leur faisait renoncer à leur Seigneur pour dire « l'empereur est Dieu ». Il faisait exactement l'inverse. Où on voit ça que le Seigneur, dans le Nouveau Testament, que c'est le Seigneur lui-même qui a donné aux autorités? Toutes les autorités qu'on voit, nous autres, on se promène sur la route, c'est marqué 90. On va marquer qu'on suit 110. On est toujours en train de désobéir. On dirait que l'autorité, ça nous fatigue. On n'aime pas ça, se faire donner des ordres, même quand ça vient de Dieu. Parce que c'est pas juste le gouvernement qui dit 90 limites. Ça, c'est la limite supérieure. Puis nous, on s'en va 100, 110. Pas grave, 115. Des fois encore plus que ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Le Seigneur nous dit qu'on est en train de désobéir à lui personnellement. Parce que c'est lui qui a donné les hautes autorités pour maintenir l'ordre socialement de faire ces choses-là. On va le lire, le passage, chapitre Romains 13, versets 1 à 6. Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. Et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Quand il y a des choses qui nous sont dites là, par les gouvernements, tant que ce n'est pas des choses qui nous commandent de faire des choses à l'encontre de la parole de Dieu, on se doit d'obéir. Vous remarquez comment on est. Chaque fois qu'il y a quelque chose que le gouvernement nous demande, on est toujours en train de respecter. Pourtant, la parole est claire, ça dit bien que c'est l'ordre que Dieu a établi. Et ça dit, on continue, « Or, ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. » Autrement dit, si tu t'opposes à ce que Dieu a donné par les choses civiles, si tu t'opposes, tu t'attires un jugement. Pas que tu vas perdre ton salut, mais tu t'attires un jugement. La police va te voir, puis elle va t'arrêter, puis elle va te donner un ticket de 150$. Oh, ça fait mal au portefeuille. Alors, c'est le 150$ qui t'amène à obéir. Car ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre lorsqu'on fait de bonnes actions, mais seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Veux-tu donc de point craindre les puissances? Fais le bien, et tu en seras loué. Car le prince est le ministre de Dieu. On sait ce que c'est un ministre. C'est supposé être un serviteur. Aujourd'hui, les ministres se prennent pour des... Eux aiment être servis, mais ils seraient supposés être dans une mentalité de servir. Le prince est le ministre de Dieu pour ton bien. À part tout ce que Dieu amène pour maintenir l'ordre dans la société, c'est pour notre bien. Puis, c'est drôle comment on prend quasiment plaisir à dépenser tout le temps ce que le Seigneur nous demande. Peu importe dans le domaine. Là, je parle de la route, là, mais c'est bien plus que la route. C'est énorme. Mais si tu fais le mal, crains, car il ne porte point... Regardez l'image que tu lis. Il ne porte point l'épée en vain. Avez-vous déjà vu le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada avec une épée dans les mains? Qu'est-ce qu'il veut dire d'abord? Il dit, car il ne porte point, il parle du gouvernement, puis il dit, il ne porte point l'épée en main. Autrement dit, Dieu a confié au gouvernement municipal, provincial, fédéral, international, le rôle de maintenir l'ordre dans la société. Il dit, il ne porte point l'épée en vain, parce qu'il est ministre de Dieu pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis. Non seulement à cause de la punition, souvent on est soumis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de poignée d'étiquette. Est-ce que la motivation est bonne?
Non.
Non. On ne devra pas avoir peur parce qu'on va poigner une étiquette. On devra avoir peur parce qu'on est en train d'être en rébellion contre l'ordre que Dieu lui-même a établi. C'est ça qu'on fait quand on manque, qu'on va à l'encontre des choses que Dieu nous a données. Mais aussi à cause de la conscience. Verset 6 est aussi pour cela que vous payez des impôts parce qu'ils sont les ministres de Dieu en s'appliquant à ses devoirs. On pourrait rentrer dans les détails des impôts au matin. C'est un domaine houleux un peu, là. Parce que même comme chrétien, on peut être tenté des fois d'en cacher un peu ici, un peu là, pas déclarer ici, pas déclarer ça. Quand on fait ça, on est encore en compte, en guerre contre Dieu, parce que c'est Dieu qui a voulu. Il dit lui-même, les impôts, ça a été fait pour ça. Si eux les utilisent mal, c'est pas un prétexte pour nous de ne pas y donner. Verset 13, la première partie, dit « Je connais tes œuvres, le lieu où tu habites, où Satan son trône. » Là, il revient avec son approbation, retenir son nom, pas renier sa foi, même au jour où ça l'était vraiment mal. Et il veut les encourager quand il dit qu'il voit le côté positif de ce qu'ils font, le côté héroïque de ce qu'ils font, et le Seigneur approuve toujours quand ses enfants agissent dans l'obéissance. La deuxième partie, on va faire quelques minutes là-dedans, le laxisme qui est toléré. Autrement dit, il veut leur montrer quelles sont les conséquences de la tolérance du mal dans l'Assemblée quand tu le vois puis tu n'interviens pas. Quand les membres le voient puis qu'ils n'interviennent pas non plus. C'est quoi les conséquences de ça? Il y en a. Versets 14 et 15, il leur dit, « Mais j'ai quelque chose. » Autrement dit, il leur a dit qu'est-ce qu'ils approuvaient dans leur vie. « Mais, c'est le « mais » là. « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles, et qu'ils tombassent dans la fornication. Pareillement, tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Alors, l'histoire est vraiment un merveilleux pédagogue si on veut profiter des leçons qu'elle nous donne, l'histoire des hommes. Alors, le Seigneur va utiliser ici une histoire de l'Ancien Testament. J'espère que tout le monde ici a lu ça. Nombre 23. Ça veut dire qu'il faut avoir lu tout ton Ancien Testament pour comprendre de quoi il parle. C'est ça pourquoi, quand je vous disais au début, une des raisons pour lesquelles les gens comprennent peu aujourd'hui l'Apocalypse, c'est parce qu'il fait constamment référence à des livres de l'Ancien Testament, à des notions de l'Ancien Testament, soit dans Daniel, ou soit dans d'autres livres. Et si on ne connaît pas de quoi il parle, quand ici il parle de Balaam et de Balak, il parle de viande, puis il parle de fornication. Puis on ne sait même pas de quoi il fait référence. Comment veux-tu qu'on y tire une leçon pour nous aujourd'hui? Qu'il tombe. Alors, le Seigneur va utiliser cette histoire de l'Ancien Testament-là pour que les croyants de Pergame voient qu'il y a un lien, un parallèle comparatif à établir entre ce que les gens, à l'époque de Balaam, souvenez-vous, c'est quoi l'histoire? Le roi de Balak avait demandé à un prophète de l'époque, Balaam, de venir et de maudire son peuple. Et le bonhomme était un petit peu attaché à l'argent. Il avait fait ça parce que le roi Balak avait dit, « Si tu m'obéis, tu vas venir, je vais te couvrir d'or. » Alors, une des leçons qui est mentionnée là-dedans, c'est vouloir maudire le peuple de Dieu en prophétie, mais sur la base de la récompense en argent. Alors, c'est un prophète corrompu et il veut leur montrer qu'il y a une des raisons pour lesquelles ces gens-là auraient voulu aller dans les réunions des divinités païennes, c'était quoi? C'était pas l'argent aussi?
Mm-hmm. Ben oui.
On parle de mon métier, on parle de mon argent. C'est encore ta motivation, c'est encore... Ben, si je fais ça, là, je joue leur jeu, puis que je à ce moment-là, je vais avoir la paix, je vais pouvoir gagner ma vie. Alors, on pourrait, et c'est pour ça que je vous ai mis dans sur la, ceux qui ont les feuilles, j'ai mis les références, on pourrait vraiment tirer un grand profit de l'étude des passages dans les Écritures qui parlent de Balaam. Parce que c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Fais attention, parce que ce que tu es en train de vivre à Pergame, ça ressemble étrangement. Ah. Fait que si tu vas revoir ce passage-là, puis tu vois comment ça s'est passé, tu vas peut-être retirer des leçons pour toi aujourd'hui. Et ça, c'est dans Nombre 22, à partir du verset 5, aller jusqu'au chapitre 25. Vous disiez trois chapitres. Quand on lit un livre comme l'Apocalypse, qu'on voit une référence à Balaam comme ça, on se devrait de prendre le temps d'aller relire le passage. Quelles étaient les leçons? Pourquoi le Seigneur te donne ce passage-là de l'Ancien Testament? Il y avait des choses à te montrer. Et tu avais aussi le chapitre 31, dans les versets 8 et 16. Ces versets-là sont extrêmement riches d'enseignements. Et quelle est la démonstration ou la leçon que le Seigneur voulait donner à son peuple dans l'Ancien Testament? C'était que l'adoration des idoles, ça conduit aux inconduites immorales et à la dissolution sexuelle. Parce que, qu'est-ce que, si vous vous souvenez de l'histoire, il voulait maudire Dieu. Non, non. Voici, il mettait les mots dans sa bouche, voici ce que tu vas dire. Puis là, Balaam, au lieu de maudire comme le roi Balak le demandait, il bénissait. Là, mon hôte était enragé. Il dit, on va te monter un peu plus haut, on va te faire un autre hôtel. Il s'est essayé à trois fois. À trois fois, ça ne marchait pas parce que le Seigneur ne voulait pas que ce prophète-là maudisse son peuple. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il a conseillé aux gens, ben, laisse-leur se marier avec les païens autour d'eux. Et les païens, les femmes païennes vont l'entraîner dans le culte de leur divinité. Et souvent, ça terminait en immoralité sexuelle. Il est en train de leur montrer que s'ils ne font pas attention, c'est exactement ça qui les guette eux aussi. Alors, ce que Balaam avait conseillé après son échec de maudire le peuple d'Israël, et son conseil avait été suivi avec succès, et la nation d'Israël avait sombré dans la grossière idolâtrie. Autrement dit, tu es en train de leur rappeler cette histoire-là pour leur dire, si vous ne faites pas attention, ce qui est arrivé au peuple d'Israël à l'époque va vous arriver à vous aussi. Parce que le mal, c'est contagieux. Si tu le tolères trop dans l'assemblée et que tu ne fais pas ce qu'il faut, alors la grossière idolâtrie, les inconduites et les orgies sexuelles. Alors, Balaam avait agi par amour de l'argent. Eux aussi, ils se devaient d'agir en ôtant le mal au milieu d'eux. On va juste lire le verset 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13, et on va arrêter là pour aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 13. « Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, n'ayez pas de relation avec lui, vous ne mangez pas même avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? » De quoi qu'il parle s'il ne parle pas de discipline? Non? Ceux du dehors, laisse-la faire. Genre. Occupe-toi de ceux qui sont dans ton église. Eux, s'il y a des cas de discipline, fallait la discipline, peu importe le coup. Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. C'était un petit peu le message que le Seigneur voulait dire à son église de Pergame. Bon, c'est sûr, on n'a pas tout fini, hein, mais on va terminer la semaine prochaine. Alors, on va arrêter aujourd'hui. Là.